France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Un nouvel opéra contemporain, c'est un événement rare. Le compositeur Matthias Pintscher et le librettiste Daniel Arkadiusz Gerzenberg seront mes invités à partir de 13h. Mais l'opéra attendra un peu le temps que l'on s'adonne à notre exercice favori, la critique. Éclairez la critique, s'il vous plaît. Avec de la danse aujourd'hui, d'abord le Béjar Ballet Lausanne en tournée pour faire découvrir ou redécouvrir le répertoire mythique de son fondateur. Et à rebours du patrimoine de création avec le Ballet de l'Opéra de Paris, Arena des chorégraphes britanniques Morgan Runacker-Temple et Jessica Wright, et puis étude de l'espagnol Marcos Moro. Vous écoutez les midis de culture, mais la pendule de l'entrée s'est-elle arrêtée sur midi? Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Laura Capel, critique au New York Times et professeur associé à la Sorbonne Nouvelle. Bonjour.
Bonjour.
Victor Inizan, docteur en études théâtrales, dramaturge et critique. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. On commence donc avec cette tournée du Béjar Ballet Lausanne, près de 20 ans après la mort de son fondateur. La compagnie va à la rencontre de son public, à la scène musicale à Paris, mais aussi dans plusieurs zéniths et arénas en France. Ce geste seul rappelle déjà que Béjar avait réussi à remplir Bercy en 99, 14 000 personnes chaque soir pour voir sa 9e symphonie, car Maurice Béjar a toujours su séduire et fidéliser le grand public. Le Béjar Ballet Lausanne, le BBL de son petit nom, propose donc une soirée en trois temps, quelques moments des grandes chorégraphies de Béjar, avec des extraits notamment de la Messe pour le temps présent et de Brel et Barbara, L'Oiseau de feu, créé en 70, et l'incontournable Boléro, créé en 1961. Laura Capel, rappelons déjà un peu où se situe Maurice Béjar dans l'histoire de la danse moderne.
Bien sûr, mais Béjar, c'est un monstre sacré de la deuxième moitié du XXe siècle sur le plan chorégraphique. Mais c'est vraiment un chorégraphe qui vient de la technique classique, qui l'a rendu populaire par l'approche qu'il a choisie, en travaillant sur des musiques extrêmement variées. Il a une écriture qui part donc de cette technique, mais qui est très lisible, très graphique et très accessible. Il a fait le choix très tôt de travailler sur, on a des extraits des musiques de Brel, de Barbara, sur des musiques d'origine africaine, d'origine indienne, en plus des grands compositeurs. Et la connexion qu'il a créée avec le public, mais déjà dans les années 50-60, on se souvient de ces grands moments au Festival d'Avignon, Messe pour le temps présent en 1967. Donc, il y a tout cet arrière-plan, évidemment, avec Béjar. Mais ce qui est fou, c'est le plaisir qu'on a, je trouve, à le retrouver aujourd'hui dans un programme
qui
comme celui-là.
Qui est toujours intact.
Ouais. Exactement. Et on voit qu'il remplit encore des salles comme la scène musicale. Ils vont faire une tournée des zéniths derrière. Quel chorégraphe français ou européen aujourd'hui remplit les zéniths en France? C'est une vraie question. On voit le lien qu'il a créé sur le temps long avec un public en France. Et ce programme montre bien la diversité de son répertoire. On a à la fois dans Béjar et nous, un espèce de medley qui a été composé pour nous donner des grands hits, entre guillemets, mais des moments du répertoire de Béjar, pour des pièces qui parfois ne sont plus dansées dans leur intégralité. Et donc on voit les danseurs s'amuser, changer de répertoire, aller de la technique sur pointe à des choses beaucoup plus amusantes, à du jerk qu'à la fin, parce que pourquoi pas. Et dans la deuxième partie, on a deux pièces très importante de son répertoire, sa relecture de L'Oiseau de feu, une relecture très épurée de ce qui était à l'origine un conte mythologique, qui là devient une espèce de parabole révolutionnaire, où L'Oiseau de feu mène des partisans et même à sa mort renaît comme le phénix, crée une armée rouge. Bon, évidemment, il y a tout un sous-texte possible derrière, même si lui se tenait un petit peu à distance de l'interprétation possible de cette armée rouge. Et enfin, son boléro mythique sur la table rouge, avec un interprète, ici une interprète, parce que ça peut être homme ou femme, face à quelques dizaines de danseurs autour qui se lèvent progressivement dans un espèce de crescendo qui nous amène à une fièvre en fait sur scène dans le dialogue entre le soliste qu'on appelle la mélodie et le rythme que forment les danseurs. Et la salle était debout à la fin. Ouais. La magie opère toujours.
Ouais. Victor Inizan. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ces trois propositions, finalement?
C'est vrai que c'est une proposition gargantuesque, comme le disait Laura. On a 13 extraits déjà seulement dans le Béjar et nous, plus ces deux grands blockbusters que je suis tout à fait d'accord. On a plaisir à retrouver notamment le Boléro pour ma part. Ce qui est intéressant, c'est d'abord ce panorama que déploie Julien Favreau, donc nouvellement arrivé à la direction du ballet de Lausanne, qui cherche à appréhender toute la diversité chorégraphique comme ça de Béjar, même si c'est vrai que sur le papier, on peut aussi questionner le bien fondé de ce genre de vulgarisation, pas d'un point de vue pédagogique. D'ailleurs, Béjar lui-même proposait des montages parfois de ses œuvres. Et cette suite de teasers comme ça qu'on a, certains durent quelques minutes seulement, est pertinent pour qui voudrait creuser l'œuvre de Béjar et y revenir ensuite. Après, d'un point de vue sensible, strictement parlant, cet aspect essentiellement panoramique, il subtilise parfois quand même à l'émotion ce qu'il offre à la connaissance, puisqu'on enchaîne comme ça plein de petites propositions. Et là, je voudrais faire une différence entre les deux premiers tiers de cette proposition Béjar et nous, et puis le dernier tiers. Dans les deux premiers tiers, il m'a semblé que les coutures étaient volontairement brutales, précisément pour chercher à montrer cette diversité, quitte à ce qu'elle nous étonne. Laura, vous le disiez, on a des musiques classiques, traditionnelles, expérimentales, des airs populaires de Brel, etc. Avec une couche, il m'a semblé d'ailleurs plus épaisse d'humour qu'on croirait. Je pense là notamment à la polka Trich Trach de Strauss, où on a comme ça cette masculinité un peu bonhomme, un peu ludique, qui est intéressante. Moi, cette brutalité, elle m'a piqué quand même à certains endroits dans Béjar et nous. C'est-à-dire qu'on a des danses au motif, je le mets entre guillemets, tribaux, un peu à un moment, enfin la deuxième proposition, ou d'inspiration juive à un moment. Donc je pense à Elio Gabal et puis à D-Book. Je pense pas que le problème réside dans les œuvres en elles-mêmes, mais dans le fait que on sent ce désir vraiment de nous surprendre en mettant entre une modernité un peu plus convenue, des instants qui détonnent carrément. Et bon, ça c'est pas inintéressant. Et pour terminer sur le dernier tiers, qui moi je pense est celui qui m'a le plus intéressé en tout cas dans le Béjar et nous, donc avec les deux chansons de Brel, notamment Ne me quitte pas par Elisabeth Ross, et puis Quand on a que l'amour. Et enfin, cet instant de musique électronique, de musique concrète, qui est repris de la messe pour le temps présent, qui avait été présentée, comme le disait Laura, en 67. On a quelque chose, je trouve, qui est un peu plus uniforme à la fin, où on a l'impression que Julien Favreau veut clore avec quelque chose d'un peu plus moderne. Alors je dis moderne aussi entre guillemets, puisque bon, la messe pour le temps présent, c'est quand même, ça date un peu. Les chansons de Brel, c'est 2001 quand même ce ballet, donc il est quand même plus récent que le reste du programme. Et je trouve qu'à la fin, ce Béjar et nous, il trouve une sorte de cohérence. Alors je dis dramaturgique, c'est pas une danse qui est très narrative, mais quand même une sorte de d'uniformité assez belle qui moi m'a séduit, même si je me serais passé de l'effet photo de classe de la fin, de la dernière image, que je trouve un peu convenu. Mais voilà, enfin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette espèce de brutalité de la couture qui, petit à petit, dans le montage, s'adoucit pour donner quelque chose que je trouve dramaturgiquement assez juste.
Laura Capel.
C'est vrai qu'il y a un effet un peu gala, mais en même temps, c'est aussi un format traditionnel des compagnies de ballet, donc c'est assez intéressant de jouer là-dessus. Après, ce qui est fascinant là, c'est que c'est aussi une démonstration de maître, en fait. C'est-à-dire, pour tenir ce genre de format, je pense qu'on est sur 45 minutes à peu près sur Béjar et nous, il faut avoir un sens de la diversité dans la composition que cette pièce montre vraiment. Et là, on voit la différence. On va parler tout à l'heure de création à l'Opéra de Paris. Les modes de composition dans les ballets ont complètement changé. Là, on voit que le travail part vraiment d'un choix musical où Béjar, à partir de sa technique et de son imaginaire aussi, donc qui nourri de modernité, mais aussi d'imaginaire de différents pays. Il y a une dimension très multiculturelle dans le travail de Béjar. Il va répondre à une musique d'une manière qui, du coup, d'une pièce à l'autre, est très peu répétitive. Il y a un travail de couture très fine de la chorégraphie par rapport à la musique qui a quasiment disparu dans la création aujourd'hui, où on est plus souvent sur des musiques de type musique de film, musique atmosphérique. Là, il se confronte à des musiques parfois complexes ou populaires, mais pas du tout si faciles que ça à tenir, parce que faire Ne me quitte pas ou Quand on a que l'amour, enfin de Brel, c'est pas du tout une évidence pour un chorégraphe et c'est très très casse-gueule. Et donc cette précision là fait aussi plaisir parce que c'est comme revenir à la source d'un certain mode de composition néoclassique aussi qui a tendance à disparaître et dont les chorégraphes pourraient parfois s'inspirer, pas au sens de le reproduire, mais y revenir pour voir la complexité qu'il y a derrière de composition musicale.
Laura Capel, vous l'avez rappelé, voilà, il remplit les zéniths, il remplit la scène musicale. Est-ce qu'on a une intuition, est-ce que vous avez une intuition de pourquoi ça fonctionne autant, pourquoi le grand public, qui va pas forcément voir de la danse contemporaine, va venir voir Béjart?
Mais en fait, il a pas peur des grandes émotions, et il a pas peur d'être lisible. Il n'essaie pas, enfin, de se draper, enfin, dans une construction intellectuelle particulièrement complexe dans certaines de ses pièces. Au contraire, il nous donne le plaisir de la danse avec une simplicité parfois qui, là aussi, dont parfois là aussi certains chorégraphes gagneraient à s'inspirer. Parce qu'on peut être populaire tout en partant d'une technique là comme la danse classique. Il n'y a pas de contradiction en fait chez Béjart. La manière dont il la donne, la manière dont on voit les danseurs s'exprimer, la variété d'émotions aussi. Parce qu'on passe vraiment de moments de joie à des moments de tristesse, des moments de tension très forte, comme dans L'Oiseau de Feu, avec ce travail du groupe en révolution, on va dire littéralement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui et on comprend pourquoi les gens s'y attachent en fait. C'est-à-dire voir Brel danser sur scène, c'est aussi un plaisir en fait pour une grande partie du public qui n'est pas spécialement attaché à la création contemporaine. Donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas ça aussi une vision de la danse qui peut être populaire tout en étant complexe sur le plan chorégraphique?
Victor Inizon, le Boléro, grand plaisir de le retrouver.
Ben oui, c'est vrai. J'étais d'autant plus étonné que je crois que pour moi, même si j'entends évidemment tout l'intérêt politique de L'Oiseau de Feu, même si le Boléro est plus ancien, enfin une petite dizaine d'années avant, il m'a paru... il fait partie, je trouve, de ces œuvres comme ça, transhistoriques, qui traversent les époques et qui gardent toute leur charge esthétique, politique. C'est-à-dire qu'évidemment... Et probablement ils le savent, c'est en fin du programme, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre là, du gros blockbuster. D'ailleurs, il est tout le temps rejoué, et c'est très bien comme ça. Il fait son effet esthétique, ce Boléro, à la fois parce que, déjà quand on emmène la table rouge, écarlate, avec toutes ces chaises autour, alors que les autres pièces étaient plateau nu, il y a comme quelque chose qui rafraîchit le regard, d'autant au regard des lumières qui, moi, m'ont pas paru immensément modernes, en l'occurrence... Même dans le Boléro, qui s'ouvre avec une poursuite sur les bras d'Elisabeth Ross, que je trouve en l'occurrence un peu plus vieillotte, mais par contre...
Elle était un peu ratée, la poursuite.
Oui, et la poursuite était... manque de chance, c'est vrai que hier, la poursuite était ratée. Bon, ça arrive, mais ça a rajouté au problème de l'effet. Et puis, charge politique ensuite, parce que... j'invente pas fil à couper le beurre en disant ça, mais c'est vrai que le Boléro a une charge subversive, érotique, évidente dans la chorégraphie de Béjart, qui reste quand même assez passionnante. Alors là, en l'occurrence, comme vous le disiez, Laura, donc c'est Elisabeth Ross, une femme qui danse la mélodie et des hommes qui dansent le rythme. Et on sait que ça a été fait de manière différente selon les versions. Et on a donc cette femme face à un groupe comme ça énorme de torse quoi autour d'elle, avec des mouvements qui s'amusent de ce rapport, des mouvements de bassin, enfin dans cette espèce de mélange d'admiration, d'avidité vis-à-vis de cette mélodie. Et je trouve que ça transpire dans les corps, c'est évident, mais ça transpire vraiment aussi dans les regards. C'est-à-dire qu'on a au début du Boléro vraiment tous ces regards portés vers cette soliste sur cette table écarlate et cette soliste qui elle est dans un détachement plus ou moins total face à cette palanquée comme ça des faibles qui n'oseront jamais monter sur la table quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de qui fonctionne quoi toujours là-dedans qui est assez fort.
Un dernier petit mot, oui. Laura Capel.
Après c'est vrai que le Boléro fonctionne toujours parce que c'est un tel hit, mais simplement une petite nuance, je trouve qu'effectivement sur l'interprétation qu'on a vue hier d'Elisabeth Ross, elle danse ce rôle depuis 1998, c'est peut-être la personne qui l'a dansé le plus longtemps, je pense, ça fait 28 ans. Mais on voit là c'était son avant-dernière, elle va arrêter. Que c'est vrai que c'est pas l'interprétation la plus la plus marquante qu'on ait pu voir dans ce rôle mythique qui a été dansé par Maya Plissetskaya, par Sylvie Guillem, par Nicolas Le Riche dans les générations précédentes. Là, on sent qu'elle avait perdu un peu de réactivité musculaire aussi, qui fait que la montée en puissance est un peu moins forte malgré toute son expérience. Mais en même temps, ça veut dire aussi que là, le rôle est en train de passer aux générations suivantes et que donc dans d'autres spectacles, il y aura peut-être l'occasion de découvrir de nouveaux solistes. Et c'est un rôle, c'est une épreuve du feu de danser le Boléro.
Béjart, Ballet, Lausanne, Béjart et nous, l'Oiseau de Feu, Boléro, c'est jusqu'au 15 mars à la scène musicale et puis alors en tournée, Strasbourg, Reims, Bordeaux, Nantes, Toulouse. Toutes les dates seront sur la page des Midi de Culture. On enchaîne avec ce programme fait de premières sur la scène de l'Opéra Garnier à Paris. Empreinte, c'est le titre. Il est composé de deux créations contemporaines, dansées par les étoiles, les premiers danseurs, le corps de ballet. D'abord, il y a Arena, proposé par un duo de chorégraphes britanniques, Morgan Renaker-Temple et Jessica Wright. C'est la première fois qu'elles sont invitées par l'Opéra de Paris. Elles imaginent un monde où tout n'est que compétition et technologie de communication. Tiens. Et une caméra filme et suit en direct les interprètes. Et puis, il y a Étude, du chorégraphe espagnol très en vue Marcos Moro. Pour lui aussi, c'est une première à l'Opéra de Paris pour lequel il a imaginé une pièce qui commence par les saluts de la danseuse et montre l'éternel enchaînement de répétitions propres à son art, la recherche de perfection et les failles inévitables. Victor Inizon.
Moi, ce qui me fascine dans ce programme, c'est que je crois qu'on pourrait difficilement imaginer plus opposé comme approche. Il y a beaucoup de sens, je trouve, qui naît de la relation entre ces deux pièces, avec d'un côté donc Arena du duo donc Renaker-Temple et Jessica Wright, qui je trouve est une sorte de modernité comme ça d'apparat très commercial, très pop, qui c'est vrai est virtuose chorégraphiquement, mais pour moi est trop inoffensive politiquement pour vraiment raconter quelque chose. Et de l'autre, le geste de Moro qui lui, tout au contraire, plutôt que de moderniser, cherche à archaïser le corps du danseur dans une proposition qui est beaucoup plus cérébrale, intello, méta, tout ce qu'on veut, mais qui est aussi beaucoup plus pertinente, je trouve. Parce qu'en fait, je trouve que en cherchant à faire du danseur un monstre, parce que c'est un peu ça, on en reparlera dans l'étude, il l'humanise plus que cette espèce de positive attitude qu'essaye de dégager le duo Jess et Morx. Je commence par Arena.
Allez, on y va, voilà.
Mais après, Arena, il faudra parler d'étude. Mais pour parler d'Arena, et pour quand même en dire du bien, il y a quelque chose de très jubilatoire chorégraphiquement, c'est sûr, puisqu'on a donc au motif classique tout un ensemble de gimmicks pop, quasi clipesque en fait, qui viennent s'agréger à la danse.
Elles ont fait des clips ensemble. Hein,
elles ont fait beaucoup de films de danse, ouais, en réalité, et ça se sent. Hein, on a donc tout un ensemble de gestes. Je pense notamment, mais il y en a plein, hein, à ces deux doigts comme ça retournés vers le visage des danseurs, comme une célébration de l'ego assez joviale. Et cette grammaire hybride, moi je trouve qu'elle fonctionne. Enfin, Jessica Wright, elle a travaillé avec Wayne McGregor, je trouve qu'on sent un peu son influence aussi là-dedans, mais encore plus pop que McGregor. Et ça marche dans les solos, dans les duos, encore plus dans les tableaux de groupe. Bon, le problème, et là où le bas blesse, je crois, d'Arena, c'est la vidéo. C'est-à-dire que cette esthétique comme ça, elle noie à force la danse dans une sorte de gros filtre publicitaire. À la fois la danse en elle-même, c'est-à-dire que je pense là un autre geste, c'est bon, c'est difficile à décrire, mais vous voyez dans certaines vidéos, mais ça date, je trouve, où les danseurs approchent leurs mains de la caméra pour faire un fondu au noir. Je trouve qu'il y a un geste très daté. On a aussi une sorte de moment libdebesque, enfin je sais pas si ça se dit, de Loïc Fuller comme ça, avec une sorte de danse serpentine en accéléré, montée, enfin des choses, un truc qui est en l'occurrence trop kitsch. Et puis l'esthétique même de la vidéo que je trouve moi trop commercial, c'est-à-dire on a cette scène dans l'enceinte de l'opéra où le danseur essaye de s'enfuir, la succession des visages comme ça, avec un filtre lumière qui est pas terrible. On croit qu'elles, justement, elles essayent d'humaniser les danseurs avec la vidéo, puisqu'au début on voit leur visage très expressif comme ça, mais à force, au contraire, je trouve que ça chosifie la chose. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que les sujets que vous évoquez, Marie, sont assez passionnants, c'est-à-dire les technologies de la communication, etc., et la surveillance, mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas d'appareil technocritique en fait dans leur spectacle. C'est comme si il y avait un désir de dramaturgie mais qu'il n'y avait pas de réflexion critique autour de leur sujet, quoi.
Laura Capel.
Ouais, c'est un programme pour moi à l'opéra qui s'inscrit beaucoup dans la dynamique actuelle sous José Martinez depuis qu'il est arrivé en tant que directeur du ballet, de rattrapage entre guillemets d'une scène européenne, d'une jeune scène européenne de ballet que l'opéra avait un peu loupé en fait ces 10 dernières années. Donc on a vu du David Dawson, on a vu parmi les jeunes Toutouzelli November au début de la saison. Il y a beaucoup de créations représentations et d'entrées au répertoire cette saison, qui ont l'air d'être un peu comme des tests de plein de chorégraphes venus de ces scènes que nous on connaît peu en France, mais qui sont assez connus à l'étranger. Donc Jason Morgs, en l'occurrence, les créatrices d'Arena. Moi, j'avais vu leur réinterprétation de Coppelia, une interprétation via l'intelligence artificielle pour le Ballet d'Écosse, il y a 4 ans. Et c'est vrai qu'elles ont une approche qui vient entièrement du film. Ce sont aussi des danseuses de formation, mais le rapport à la vidéo est tellement présent que pour moi, il prend le pas vraiment sur même la composition chorégraphique. Moi, je trouve pas ça si virtuose que ça, en fait. Enfin, au bout d'un moment, ça tourne un peu à vide. Il y a 10-15 pas qu'on retrouve de manière très régulière, quelques petits portés qui sont des clins d'œil à la virtuosité classique, des sauts de chat, des choses comme ça. Mais où, en fait, tout ça est tellement uniquement au service du concept, de ce concept de travailler sur le rapport à la technologie, sur l'aliénation que ça amène également, sans pourtant que ça mène à grand-chose. Mmh. En plus, c'est un dispositif vidéo qu'on a vu beaucoup sur les scènes de théâtre en France ces 10-15 dernières années. Bon, ça, c'est pas leur faute. Hein. Puis elles travaillent pas en France habituellement. Mais du coup, il y a un effet pour l'œil qui n'est pas non plus un effet de nouveauté. C'est presque, effectivement, daté avant de l'être. Assez daté, c'est assez étonnant, cette pièce. Et puis, je pense qu'elles ne vont pas au bout de l'idée de cette mise en compétition. Parce qu'en fait, on voit les danseurs au début arriver avec des dossards. Ils dansent les uns après les autres. Ça, dans l'imaginaire de la danse, ça renvoie à l'imaginaire du concours. En fait, du concours de danse. D'ailleurs, sur lequel Béjart avait fait une pièce qui s'appelait Le Concours, qui était très drôle au répertoire de l'opéra, qui était plutôt une version comique. Et donc, je dis, bon, bah, très bien, on va aller à cet endroit-là aussi. Mais en fait, c'est pris dans un imaginaire beaucoup plus large sur la technologie qui fait qu'on perd ce que les danseurs eux-mêmes ont comme rapport à la compétition entre eux, au profit d'une espèce de figure de gourou, le numéro 81, incarné par Lou Marco Deroire, qui est très bon, mais qui est aussi très générique, en fait, et qui est finalement imité au bout d'un moment par les autres, et donc qui perd de son pouvoir, qui commence à paniquer, tout le monde devient identique, etc. C'est pas... Émotionnellement, ça fonctionne assez peu, en fait, sur le plan dramaturgique à ce moment-là, malheureusement, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là.
Passons à étude, maintenant, du chorégraphe espagnol Marcos Mauro, Victorine Isan.
Comme je disais, je crois que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que là, on a une vision beaucoup plus archétypale du corps de ballet, avec un vocabulaire classique qui est pas tant modernisé, mais qui est plutôt perturbé par des sortes d'inserts horrifiques, j'allais dire, enfin légèrement horrifiques, comme on l'a déjà vu hein, chez Moro, des corps qui sont souples à l'extrême, qui frisent un peu l'inhumain, dans un dispositif ultra méta. C'est vraiment ça qui guide la dramaturgie.
Méta,
alors quand je dis méta, c'est-à-dire que, vous l'avez dit Marie, on ça s'ouvre avec un salut, le rideau se lève, et derrière le rideau, il y a un rideau qui est le même que celui de l'Opéra Garnier, et derrière ce rideau, il y a un lustre qui est immense, qui est quand même vraiment magnifique, et qui est le même que celui de Paris Garnier. Donc il y a tout un ensemble de jeux comme ça, voilà, sur... en fait, le ballet lui-même, l'opéra lui-même, et ce qu'on voit chorégraphiquement, ce sont les danseurs à la barre, le ballet en fait lui-même. On a l'impression que c'est une sorte de déclaration d'amour ténébreuse, un peu horrifique comme ça au corps de ballet, ce que je trouve en fait assez passionnant, de sorte qu'ici le motif du double qu'on avait déjà vu dans Arena est beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus menaçant chez Moreau. C'est un peu comme si d'un côté on avait la psychologie de la surface et de l'autre côté la psychologie des profondeurs, quoi, avec quelque chose de beaucoup plus sinueux, de beaucoup plus aride. Bon, après, chorégraphiquement, par rapport à ce que Moreau fait d'habitude, je trouve quand même ça un peu sage. C'est-à-dire que la grammaire du monstre, elle est belle, mais je trouve qu'elle aurait pu être poussée un peu plus loin. Bon, ça n'empêche que il y a quand même quelque chose de résolument surréaliste, quoi, dans cette œuvre. Surtout dans l'ambiance, finalement, lumineuse, musicale aussi, avec la musique de Gustav Rudman, et dans la structure labyrinthique, un peu plus que dans les pas de danse, et en même temps, pourquoi pas, parce que ça reste quand même passionnant comme ça.
Laura Capel.
Si c'est une déclaration d'amour au ballet, mais pauvre, mais pauvre ballet. Mais quel imaginaire pauvre, enfin du ballet classique. Il est réduit à des éléments comme des tutus, un bouquet, le lustre de Garnier, le foyer de la danse, évidemment, sur lequel s'ouvre le fond de scène à la fin. En plus, des éléments que les chorégraphes qui viennent de l'extérieur utilisent très souvent. Le lustre, on l'avait déjà eu chez Ophèse Schächter l'année dernière. Le foyer de la danse, ça revient de manière constante. C'est ça, le ballet classique, en fait? Enfin, vraiment? C'est triste, parce que, en fait, je trouve que Marcos Mauro met en scène un imaginaire de l'aliénation des danseurs, qui du coup se retrouvent dans la position de devoir incarner une version aliénée d'eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils ont été formés à une technique classique. je trouve ça atterrant, en fait. Enfin, quand on voit la variété du répertoire classique, quand on voit des choses comme Béjart, etc., en fait, la technique en soi n'est pas une aliénation. Enfin, la technique est une technique. Donc, réduire le ballet à cet imaginaire, c'est du coup signer sa propre mort, d'une certaine manière. C'est ce que m'a dit la critique qui était à mes côtés pendant la première mercredi de Télérama, qui s'est tournée vers moi et qui m'a dit « Mais ah ben, en fait, c'est la fin du ballet. Ça y est, on en signe la mort. » Pour une compagnie comme l'Opéra de Paris, où les danseurs sont parmi les plus privilégiés du monde, enfin, où on a des danseurs hautement formés qui sont capables de faire mille choses, c'est un peu triste. Il y a des images magnifiques. Il y a plein de références, effectivement. C'est-à-dire quand ces rideaux se lèvent et qu'on voit les danseuses rentrer en tutu, c'est aussi clairement un clin d'œil à la descente des ombres du ballet La Bayadère, qu'on va revoir en fin de saison à l'Opéra. Il y a toute cette scène avec des barres concentriques au centre de la scène où les danseurs créent un espèce d'organisme qui font leurs barres. Donc on les voit s'étirer, se mélanger, enfin d'une manière qui, certes, utilise les pas de manière assez intéressante, visuellement rend bien, mais là aussi ne propose pas grand-chose, en fait, enfin sur ce ballet. C'est bien, hein, enfin, de taper sur l'imaginaire du ballet constamment, mais en fait, à un moment donné, ça a ses limites. Dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir un ballet de l'Opéra de Paris, qui est la compagnie la plus subventionnée de France ? Je suis contente de poser la question. par ailleurs, c'est un peu dommage dans ce type de programme aussi que maintenant se soit constitué à l'Opéra de Paris un groupe contemporain, qui est le groupe qui est constamment utilisé dans les créations, quasiment, qui ne comporte ni premier danseur, ni étoile. Donc ni soliste, ni étoile de la compagnie.
Là, il n'y avait pas d'étoile, pas de premier danseur.
Ce sont uniquement des membres du corps de ballet qui sont excellents, hein, c'est pas la question. Mais il y a aussi une tendance maintenant chez les chorégraphes qui viennent à du coup prendre cet imaginaire, mais sans se confronter aux interprètes les plus renommés, voilà. Et aux individualités de la compagnie. Mmh. Alors certes, parfois, ils sont moins formés à ces techniques contemporaines, à ces approches, mais c'est aussi par ça que les chorégraphes évoluent. Enfin, je veux dire, quand Pina Bausch est venue à l'Opéra de Paris dans les années 90, elle a travaillé avec les étoiles de la compagnie, ça les a amenés sur d'autres territoires, et une rencontre s'est faite. Mmh. Voilà, ça semble très négatif ce que je dis, il y a vraiment des images magnifiques, et je voulais signaler que Marcos Moro vient également au Châtelet avec Afanador, qui est une pièce monumentale pour le Ballet National d'Espagne, qui n'est pas une compagnie classique, qui est une compagnie de technique plutôt flamenco espagnol, donc pour 40 danseurs, inspirés par le travail d'un photographe colombien, Ruben Afanador, et qui mérite vraiment d'être vu. C'est une grande réussite visuelle, plus à mon sens que cette pièce étude qui, bon...
Donc c'est au Châtelet.
Ce sera au Châtelet à partir de fin mars, du 27 mars.
Un tout dernier mot, mais alors vraiment, mais une seconde.
Oui, Victor. Très vite, parce qu'on n'est pas du tout d'accord. C'est vrai que la première pièce, Arena, me semblait célébrer la technique et montrer que la technique était presque un acte de libération. Là, je trouve précisément, vous parlez d'aliénation. Moi, je trouve ça très beau, cette aliénation, donc je voulais juste dire ça, que précisément, on pouvait louer l'aliénation, louer la technique comme aliénation, et que ça montrait bien qu'il y avait une pensée critique chez Moreau, là où il n'y en a pas,
c'est
Jazz et Morx.
Mais c'est pas nouveau. Tous les chorégraphes mettent en scène cette aliénation.
Je propose de continuer à bien discuter juste en sortant du studio avec. Grand plaisir. Merci beaucoup, Victor Unizan. Merci beaucoup, Laura Capel, d'être venue en Prince jusqu'au 28 mars à l'Opéra Garnier. Et ce sera aussi sur Pop Paris Opéra Play.